Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure de la chronique consti, puis il y a des semaines comme celle-là où la chronique consti tombe toujours bien, mais il y en a quand même des semaines où elle tombe encore mieux parce que bonjour Patrick Therrion,
bonjour
notre
Antoine.
Chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Grosse annonce en habitation et en logement hier de la part du gouvernement Trudeau. On peut dire que c'est en dehors de ses champs de compétences, en tout cas c'est ce qu'on ici à Québec. A été dit par le gouvernement du Québec. Tu vas faire les nuances qui s'imposent. Là. Il y a peut-être des choses dans le plan Trudeau qui a été déposé. On n'a pas tous les détails parce que c'est un plan qui va être finalement détaillé dans le budget. Alors, est-ce que ça, c'est quand même un envahissement assez important dans les champs de compétences du Québec?
Oui. Et comme toujours en matière de partage des compétences, il y a un projet. Il faut quasiment prendre morceau par morceau, parce que si ça va devant les tribunaux vont pas dire le projet au complet est inconstitutionnel, ils vont le regarder morceau par morceau.
Ouais.
Et on peut aller peut-être du moins pire vers le pire. Mais avant, faut pas négliger l'emballage dans lequel on met ces règles-là. Hein. On appelle ça une charte du locataire. Ça a une portée symbolique et ça permet d'enrober dans le vernis des droits fondamentaux. De cacher un peu le problème de compétence. De toute façon, les droits fondamentaux, tout le monde est pour ça, et d'une certaine manière, ça donne en tout cas du souffle à l'annonce. Cela dit, le fédéral a déjà participé à l'adoption d'une charte constitutionnelle ambitieuse qui est maintenant la charte de toute la fédération, la charte canadienne, mais il en a adopté d'autres comme la charte des voyageurs,
oui.
Qui n'a pas tout à fait la même envergure. Fait qu'on verra bien à la fin de la journée si c'est vraiment une charte qui a du tonus.
Ouais,
dans
ouais.
Cette charte, il y a des affaires que le fédéral a le droit d'adopter. Quand il dit « moi je veux que les banques et les agences qui font les notations, les évaluations de crédit » intègrent dans leur calcul chaque paiement fait par les locataires, ben là, on peut dire, ce que le locataire fait, c'est à Québec de gérer ça, mais les banques, c'est à Ottawa. Fait que fort probablement que sur une mesure comme celle-là, un juge qui serait saisi de la mesure dirait, ben oui, le fédéral est compétent sur les banques, la question du crédit, c'est pas impertinent.
Okay.
Après ça, c'est le propre du fédéralisme canadien. C'est un Far West avec une apparence de règles de droit, mais le nombre de d'échappatoires pour contourner le partage des compétences est assez important. Et il y a une partie de l'annonce qui utilise les échappatoires habituels. Donc, quand le fédéral dit « moi, je vais dépenser 15 millions pour créer un fonds », ben oui, ça viole l'esprit du partage des compétences. Mais comme c'est simplement des dépenses de fonds publics, fort probablement que les tribunaux interviendront pas.
Et là-dessus, c'est un fonds de protection des locataires là, qu'on annonce.
Un fonds d'aide à la contestation judiciaire, Antoine. Ah, et là, on voit le modèle avec la charte, parce que on le connaît, le fonds canadien, il est administré par à l'Université d'Ottawa, et c'est un fonds qui cherche à donner de l'argent à la société civile, pour qu'elle introduise des contestations. Puis on voit l'effet structurant que ça peut avoir, parce que sinon, t'as pas l'accès à la justice. Alors là, on peut donner à des associations de représentation des droits des locataires de l'argent, des millions, pour introduire des contestations contre les locataires, mais peut-être aussi pour contester des lois provinciales. Donc ça, c'est l'idée que le fédéral finance les contestations des autres pour attaquer les lois provinciales, ça viole l'esprit du fédéralisme. C'est pas du tout un esprit de coopération, mais bon, fort probablement que sous l'angle du partage des compétences, du pouvoir fédéral de dépenser, les tribunaux se mettront pas le nez là-dedans non plus. Et là, on arrive à ce qui est probablement la gaffe du gouvernement Trudeau, c'est-à-dire ils vont dans un terrain où ils sont beaucoup plus vulnérables, les autorités fédérales sont plus vulnérables lorsqu'ils disent « nous voulons obliger », donc là, on veut plus dépenser de l'argent, on veut imposer une obligation aux locataires de fournir le montant des loyers antérieurs. Alors moi, je sais pas si la mesure...
Mais c'est déjà dans la loi de France-Hélène Duranceau aussi.
Oui, mais le dominium domine, puis lui, qu'il y a une loi dans une province, mais qu'il l'est pas dans l'autre, ça l'amène à vouloir agir. Donc, effectivement, moi, je suis pas sur le fond de l'affaire. La règle en tant que telle, elle a sûrement un intérêt. J'en suis pas spécialiste. Mais l'idée, c'est que c'est au Québec de décider si on veut une telle règle.
Ben oui.
Et donc, du moment où ils vont introduire ça...
Ben, c'est censé être ça, le fédéralisme.
Oui. Et donc,
l'unité dans la diversité.
Et donc, pour créer cette obligation-là, ils vont être obligés de l'introduire dans une loi. S'ils l'introduisent dans une loi, ben là, on peut l'attaquer et on aurait vraiment de bonnes chances. À moins qu'ils soient ratoureux, comme ils le sont souvent, ils pourraient dire, non, on veut que les provinces obligent les locataires, et s'ils ne le font pas, on va leur couper du financement. Comme quoi, les moyens d'agir d'Ottawa sont quand même, peuvent toujours contourner...
C'est comme sur les questions de santé.
Exactement, c'est le chantage à l'argent qui étouffe fiscalement les provinces depuis des années. Mais admettons qu'ils auraient l'audace de le mettre dans la loi sur le budget, qu'il y a une loi fédérale qui impose des obligations aux locataires. Je pense que pour le Québec, ce serait le temps et ce serait une occasion là, d'utiliser ce que moi j'appelle un petit trésor caché dans la Constitution de 1867.
Bon, c'est ça la proposition.
Exactement, une disposition dont on parle beaucoup dans le milieu de la recherche, mais assez peu dans le milieu politique, puis au fond les citoyens connaissent pas du tout. Alors, c'est un peu obscur, je prends une seconde.
Moi, j'ai déjà fait la une du Devoir avec cette question.
Oui.
C'était l'article 94.
Exactement, l'article 94, qui est vraiment une disposition inutilisée jusqu'à présent. Faut comprendre qu'en 1867, là, je veux pas faire un trop long cours d'histoire, mais ce qu'on hésitait à faire, là, c'est faire une vraie fédération ou faire du Canada un mini-empire britannique. Et donc, il y a ce que moi j'appelle, avec d'autres, des dispositions un peu exorbitantes du fédéralisme dans le texte de 1867. La base, c'est on fait une fédération, mais une fois de temps en temps, on crée un pouvoir pour Ottawa qui est un peu un équivalent de ce qu'aurait le Parlement de Westminster à l'endroit de ses colonies. Et là, l'article 94, c'en est un.
Comme le pouvoir de désaveu, par exemple, qui est tombé à
l'étude. Pas notre sujet d'aujourd'hui, mais qui est exactement l'incarnation même de ce qu'est un pouvoir exorbitant.
Alors, et 94, c'est un peu l'inverse.
94, c'est un pouvoir exorbitant pour le fédéral d'uniformiser le droit privé. Donc, c'est un pouvoir exorbitant parce qu'on dit le fédéral pourra uniformiser ce qui est de la compétence des provinces. Et dans la négociation, on a dit, ouais, mais attention, là, le droit privé, depuis l'acte de Québec, c'est la tradition française devenue code civil au Québec.
L'acte de Québec, c'est 1774.
Donc, c'est le fondement de d'une des dimensions de la spécificité du Québec, le fait qu'on nous sommes dans une tradition juridique civiliste et non pas dans la tradition juridique de common law. Et donc, lorsqu'ils écrivent le pouvoir exorbitant d'uniformiser le droit privé, donc le droit du logement, c'est l'exemple qui est devant nous cette semaine, ils disent « le fédéral pourra uniformiser ». Donc ça, c'est pas bon pour Québec. Mais ils disent « seulement dans les provinces de common law ». Et donc, l'article 94, c'est la reconnaissance que le Québec n'est pas une province comme les autres.
C'est comme une vraie société.
Et c'est ce que disent.
C'est un élément, d'ailleurs, de la définition de la société distincte dans l'accord du Lac-Mégantic, bon, qui n'a pas été adopté, mais... ça s'inspirait de cet article 94.
Exactement. Et c'est ça un peu le problème avec ce genre de petit trésor caché où on en parle souvent dans ici dans la chronique. La différence entre le texte puis la règle de droit, c'est que le texte il est là. On voit tout ce qui veut dire quelque chose. On voit le potentiel. On voit au fond que 94, si on lui donnait tout le potentiel qu'il peut avoir, ça pourrait être la reconnaissance du Québec comme société distincte comme on le souhaitait dans Meech. Mais encore faut-il qu'il y ait un juge qui lui fasse dire cela. Et donc, par exemple, Marc-Antoine Adam, qui est, je crois, cadre dans la fonction publique, mais a mené plus jeune des recherches universitaires de grande importance. Il a publié un article très important pour décrire tout le potentiel de cet article 94. Mon ami et collègue Guy Laforêt ne cesse de dire que cet article-là devrait être davantage utilisé. Ils ont tous raison. Mais encore faut-il trouver la configuration factuelle, la mise en scène judiciaire qui nous permettrait d'arriver puis de dire à un juge, allez, prononcez-vous sur 94. Et là, on l'a devant nous.
Mon Dieu, mais
on a du droit du logement,
le gouvernement...
le code civil,
ben
un fédéral qui veut uniformiser.
Ben oui.
qui veut uniformiser sans respecter l'article 94. Et donc, je trouve qu'on aurait une belle démarche de contestation judiciaire où on pourrait mettre à l'épreuve l'article 94 dans ce qu'un autre premier ministre du Québec aurait appelé des conditions gagnantes, là, si je peux dire, dans des conditions favorables.
Oui, mais le gouvernement Legault arrête pas de se chercher des options, hein, et ça en est une belle. Donc, c'est une belle proposition. Appelons ça l'option Taillon.
En tout cas, il y a un potentiel dans cet article 94.
Taillon à dans la forêt, pardon. Très bien. Notre deuxième thème maintenant, les juges de la Cour du Québec qui se poursuivent entre eux. Donc, il y a vraiment une bisbille à la Cour du Québec, incroyable. Puis, oui, il y a peut-être des conflits de personnalité, mais c'est peut-être aussi politique.
Oui, là, la saga, on peut plus la résumer tellement elle a de chapitres, mais on connaît, okay. Ça a commencé lorsqu'il y a eu la dynamique sur les violences sexuelles et familiales, où le législateur québécois, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a voulu imposer des obligations aux juges, à la magistrature en la matière. Et là, il y a eu un réflexe, on peut dire, d'indépendance judiciaire ou de corporatisme judiciaire, ça dépend comment on regarde ça, de se braquer un peu comme ça. Et là, a commencé toute la saga, le conflit entre la juge en chef Rondeau et le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Oui. Il y a plusieurs chapitres, celui sur les juges bilingues, on en a souvent parlé, la grève des horaires, là, ce que j'appelle la grève du zèle, où les juges de la Cour du Québec, après avoir eu des gains salariaux,
c'est trop long à résumer.
Ce qu'on apprend...
Mais c'est une vieille... Retenons que c'est une vieille querelle, puis je pense que là, il y a un nouveau juge en chef depuis cet automne à la Cour du Québec. Lui a fait la paix assez rapidement avec le gouvernement du Québec, puis ça a l'air à ne pas faire l'affaire, surtout sur la question du bilinguisme, chez une des juges.
Le nouveau chapitre qui s'écrit devant nous est difficile à décoder, parce qu'il y a un aspect, je ne veux pas dire qu'il relève de l'intime, mais il y a un arrêt de travail, un congé de maladie, qui suit d'une démission et d'une poursuite en harcèlement au travail. Fait que là, ça, ce bout-là, là, qui peut savoir...
Une poursuite de 434 000 $, c'est pas rien.
Quoique si c'est associé à des pertes salariales, les juges gagnant de gros salaires, peut-être que ceci explique cela. Mais il y a de tout ce versant-là qui est hyper délicat et qu'au fond, on pourra connaître seulement lorsque le litige se rendra à son terme, s'il se rend à son terme. Mais il y a des faits qui nous permettent, entourant l'affaire, c'est Vincent Larouche dans les pages de la presse qui était le premier à écrire là-dessus, d'apprendre, parce que pouvoir judiciaire, là, c'est un vrai pouvoir, mais c'est le plus opaque aussi. On sait très peu de choses sur ce qui se passe en coulisses. Alors, si on se fie aux informations de Vincent Larouche, la juge qui poursuit en harcèlement psychologique au travail, c'est la juge qui était la plus fidèle à la juge Lucie Rondeau. Donc, c'était son adjointe, son bras droit. Elle faisait partie de l'équipe de direction de la Cour. C'est la seule qui a resté dans la transition. Et au fond, elle prétend que le nouveau juge en chef, entre toi et moi, là, pour résumer, il avait très hâte qu'elle parte et donc a eu des comportements à son endroit qui marquent un manque de respect ou quelque chose de soi, dans le but pour, vraisemblablement de provoquer son départ. Mais n'empêche qu'en lisant le reportage, d'abord, on apprend que leurs conflits ont une telle intensité que ça implique des poursuites entre juges. Ça permet du moins de confirmer que les décisions du nouveau juge en chef de régler hors cours certains litiges, dont celui sur la nomination des juges, c'est-à-dire on va arrêter de chicaner entre le politique puis le judiciaire devant les tribunaux, on va se parler puis on va trouver des solutions. Ça fait pas l'unanimité au sein de la direction, et que cette juge-là, la juge Tremblay, elle était contre cette solution-là. On sait aussi que le règlement hors cours... Il a été signé seulement par le juge en chef et qu'il y a toute une ambiguïté de savoir si les autres parties qui poursuivaient, le Conseil de la magistrature du Québec, les juges en chef adjoints, etc., vont être solidaires ou se désolidariser de l'entente négociée à l'amiable par le nouveau juge en chef. Donc, on voit toute la bisbille qu'il y a entre les juges. Et on apprend aussi dans le reportage un truc qu'on soupçonnait depuis un bon moment, c'est-à-dire que le nouveau juge en chef... Il avait déjà été juge en chef adjoint, puis il avait mis fin à son mandat durant les années Rondeau.
Oui, sur la question des nominations.
Est-ce que c'est la question des nominations qui l'amenait à prendre un pas de recul? Est-ce que c'est le dossier des horaires, là, des moyens de pression associés aux horaires? On le sait pas. Moi, je pouvais pas savoir s'il avait pris un pas de recul par rapport à l'administration Rondeau pour des raisons de principe et de désaccord. Mais selon les informations de Vincent Larouche, oui, il aurait démissionné à l'époque par désaccord, étant convaincu que l'orientation très combative et confrontative de la juge Rondeau, c'était pas l'approche qu'il privilégiait. Donc, on voit comment, en quelque sorte, l'actuel juge en chef de la Cour du Québec était un peu un juge dissident dans l'équipe de direction de la juge Rondeau. Et comment
Henri Richard, hein, il s'appelle Henri Richard.
Et comment la juge adjointe Tremblay, qui aujourd'hui a démissionné et poursuit pour plus de 400 000 $ l'actuel juge en chef, elle aussi se retrouve à être dissidente. Comme quoi, il y a de la politique, il y a des combats, il y a des guerres d'influence de pouvoir au sein du pouvoir judiciaire. C'est juste qu'il y a plus d'opacité. Et si demain matin, un ministre du gouvernement poursuivait le premier ministre, ou encore, on l'a vu au Parti libéral, si jamais un militant poursuivait en plainte, en harcèlement, un candidat potentiel à la chefferie, il y aurait un traitement
médiatique.
Fred Beauchemin, médiatique de la plainte qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on réserve à ces chicanes entre juges.
Bon, on a cette vision des juges sur leur nuage en train de jouer de la lyre comme s'ils étaient des dieux de l'Olympe.
Il faut pas être naïf. Là où il y a du pouvoir, il y a des jeux de coulisses, il y a des gens qui sont en désaccord. Puis c'est pas facile d'inventer la manière pour le pouvoir judiciaire de rendre des comptes. Ouais. Parce que leur secret, leur confidentialité a certaines vertus. Mais en même temps, c'est fascinant de voir qu'on a un pouvoir particulièrement opaque.
Bien, merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.